Ça va commencer dans 3, 2, 1. Binge audio.
The question is, the moment has come. The rules have to be changed. Everything needs to change. Everything.
Mes très chers amis, à Seillan cet été, un village du Var, les habitants devaient consommer 150 litres d'eau maximum par jour à cause de la sécheresse. Si vous dépassiez cette limite, la mairie réduisait votre débit d'eau. Je rappelle qu'il est illégal de couper l'alimentation en eau d'une habitation. À votre avis, qui dépassait la limite des 150 litres ? Les villas somptueuses, avec piscines et végétation luxuriante à entretenir. Notamment une, où aurait même séjourné Lady Di, selon la légende, qui utilisait 23 000 litres d'eau par jour. 23 000 ! Notamment pour pouvoir arroser son jardin exotique. C'est le maire lui-même qui a dû venir réduire le compteur d'eau, car les techniciens du service étaient terrorisés. Ces derniers se faisaient régulièrement recevoir à coups de jets de tomates par les propriétaires des villas. Moi, c'est quand j'ai lu cet article dans Le Monde qui relatait ce qui se passait à Seillan cet été que j'ai eu un moment de « climate truth awareness », comme ils disent dans le jargon, de sursaut de vérité climatique. Si nous n'agissons pas, je me suis dit, une minorité de personnes extrêmement riches vont s'accaparer les ressources naturelles et laisser périr les autres sans scrupules. C'est déjà ce qui se passe à l'échelle planétaire, vous allez me dire. Mais de le constater avec l'histoire de ce village à petite échelle dans mon pays, ça m'a forcé à ouvrir les yeux.
It all depends on us.
Mais je vais quand même être tout à fait transparente. Je suis absolument pas objective en ce qui concerne le sujet que nous traitons aujourd'hui. Je suis jamais vraiment objective pour ceux qui connaissent le podcast. Mais là, c'est pire. Depuis que j'ai entendu parler de l'histoire de Seillan, j'ai rejoint moi aussi l'activisme écologique à mon petit niveau. J'ai participé au blocage du périphérique le 11 novembre avec dernière rénovation et j'ai rejoint un groupe autonome qui dégonfle les pneus de SUV la nuit. Je vous le dis pour être totalement transparent, pour vous dire d'où je parle. Parce que l'urgence de la situation m'est apparue comme tellement brûlante qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose. Autre chose que parler dans un micro. Mais est-ce que c'est la meilleure stratégie ? Jeter de la soupe, bloquer les périphes, est-ce que cela peut vraiment avoir une influence politique ? La désobéissance civile a-t-elle déjà obtenu des victoires dans l'histoire ? Y a-t-il un risque de se mettre les Français à dos ? La désobéissance civile est-elle notre dernière chance pour sauver notre planète ?
The real power belongs to the people.
Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable.
On peut plus rien dire.
Vraiment, c'est n'importe quoi.
On peut plus rien dire.
Et la prochaine fois, ça sera quoi ?
On peut plus rien dire.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
On peut plus rien dire.
Faut-il jeter de la soupe sur les tableaux ? Avec moi cette semaine pour essayer de répondre à cette question et échanger sur ce sujet, Loïc. Loïc, salut.
Salut.
Tu es citoyen soutenant Dernière Rénovation. On te connaît notamment parce que tu es rentré sur la pelouse du match de foot PSG-OM le 16 octobre pour essayer de t'attacher à la cage des buts. Loïc, je précise que je t'appelle par ton prénom, non pas par mépris, mais parce que c'est comme ça que le veut la tradition militante. À nos côtés aussi, Paloma Moritz. Salut Paloma.
Salut.
Tu es journaliste spécialiste de l'écologie chez nos amis de Blast. Et Manuel Cervessa-Marsal, bonjour.
Bonjour.
Tu es sociologue, auteur de Résister, petite histoire des luttes contemporaines parue en septembre 2022 et de Désobéir en démocratie. Ma première question, elle est pour toi Loïc. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe en ce moment ? Jet de soupe, blocage, interruption de spectacle, qui organise toutes ces actions et dans quel but ?
Ouais, bien sûr. Merci de nous avoir invités sur ce podcast. Je viens parler au nom de la campagne de résistance civile Dernière Rénovation. C'est une campagne de résistance civile française qui est née en avril 2022, en même temps que le réseau du même nom A22 pour avril 2022, qui regroupe 11 pays qui sont tous simultanément entrés en résistance civile avec des campagnes et des modes d'action que tu viens de citer. Donc des choses assez choquantes parfois, troublantes ou qui peuvent sembler déranger les populations, comme les blocages d'autoroutes, sans parler aussi des interventions sur les événements sportifs. Et en fait, on fait tout ça parce qu'on a l'impression que tous les autres moyens ont été éprouvés et ne marchent plus.
Dernière Rénovation, c'est une organisation financée par le Climate Emergency Fund qui demande la rénovation thermique des bâtiments. Le secteur du bâtiment représente en effet à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre du pays et les passoires thermiques coûtent une fortune à chauffer, contraignant certaines Françaises ou certains Français à devoir choisir entre manger et se chauffer. L'organisation l'assume, elle a choisi de se focus sur une seule mesure concrète pour qu'enfin une victoire politique pour le climat soit obtenue. Elle estime qu'il est plus efficace de se battre pour une mesure concrète à la fois que pour un objectif vague et angoissant comme sauver la planète. Comment c'était pour toi de courir sur la pelouse du stade?
Disons que j'ai jamais pensé faire ça de ma vie d'abord, donc c'est vrai que c'était un peu bizarre et très stressant, très stressant. J'ai passé 2-3 jours avant qui étaient les plus stressants de ma vie, je pense.
Et ensuite, ça s'est passé comment?
Tu veux dire en garde à vue?
Tu t'es fait arrêter, oui, voilà. Quelles ont été les conséquences?
J'ai passé 40 heures en garde à vue et j'ai un procès au mois d'avril prochain.
Alors, si on se fie aux chiffres donnés justement par l'organisation Dernière Rénovation, plus de 150 personnes sont entrées en ce qu'ils appellent résistance civile ces dernières semaines. Participer à des actions, c'est pas comme signer une pétition sur change.org quand même. C'est prendre le risque d'être arrêté, de faire une garde à vue, d'avoir peut-être des conséquences juridiques. 150 personnes, Manuel Servassa, Marsal, est-ce que c'est un chiffre qui est signifiant? Est-ce que ça veut dire que est-ce que c'est différent du nombre de personnes qui sont d'habitude prêtes à passer à des actions comme ça avec des conséquences différentes?
C'est à la fois très peu et en même temps c'est énorme. C'est très peu parce qu'effectivement, quand on regarde les grandes manifestations nationales en France, quand il y a une réforme du gouvernement sur les retraites ou ce genre de choses, ça met des centaines de milliers, parfois des millions de personnes dans la rue. Donc, quand on compare à 150, effectivement, ça peut paraître groupusculaire. En même temps, c'est énorme parce que, comme vous venez de le dire, ces activistes, ils prennent des risques personnels, des risques juridiques, des risques physiques aussi au moment de la répression sur le coup, qui sont importants, qui sont inhabituels. Et donc, ça demande une forme de courage, en fait, une disposition à s'exposer que n'ont pas, on va dire, la majorité des citoyens et des citoyennes.
Quel est le sens derrière ces actions symboliques, peut-être, Loïc? Il y a des gens, peut-être, qui ne comprennent pas le lien entre bloquer un événement sportif ou interrompre un événement sportif et le climat.
Ah bah, écoutez, je vais mettre fin à une longue discussion, puisqu'on a beaucoup abordé ça sur les plateaux. Ils nous demandent tous quel est le rapport, effectivement, entre ces modes d'action et le sujet, qui est quand même la rénovation thermique des bâtiments. Je rappelle que ce réseau A22 donc, a des luttes locales spécifiques, mais en France, on se bat pour ce chantier-là, qui représente 20% des émissions nationales et quasiment 45% de toute la consommation énergétique du pays. Donc, c'est un chantier prioritaire si on veut réussir cette transition écologique et sociale. Et quel est le rapport? Malheureusement, quasiment aucun. C'est-à-dire qu'on est complètement conscient que c'est absurde d'avoir à en arriver là, à bloquer des gens sur les autoroutes, à intervenir dans des événements sportifs de manière assez spectaculaire. Et si on pouvait faire autre chose, et on l'a essayé d'ailleurs, eh bien on le ferait, mais ça ne suffit plus aujourd'hui.
Comment on définirait le concept de résistance civile, Paloma Moritz?
Alors, on parle à la fois de désobéissance civile et de résistance civile, hein, donc bon, voilà. Mais la désobéissance civile, y a plusieurs penseurs, notamment Henri David Thoreau, qui en sont à l'origine et qui, lui, par exemple, à la base, avait fait de la prison parce qu'il avait refusé de payer ses impôts aux États-Unis, parce qu'il ne voulait pas participer à la machine coloniale, mais aussi aux guerres qui avaient lieu à l'époque. Et donc, ne pas être consentant, en fait, à payer de l'argent pour que le gouvernement mène un certain nombre d'actions à l'international. Et en fait, l'idée derrière ça, c'est de dire que nous ne sommes pas simplement des citoyens, mais que nous sommes des citoyens qui sommes obligés d'obéir à des lois, mais que nous sommes des sujets. Et c'est de reprendre en fait aussi notre individualité, de s'exprimer en tant qu'individu plein et entier et de dire en fait qu'il y a un certain nombre de choses qui sont injustes. Et à partir du moment où il y a des lois injustes, en fait, il serait plutôt légitime d'y désobéir. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir voir que de plus en plus, il y a des personnes partout en France et dans le monde qui se disent qu'elles sont légitimes justement à désobéir parce que tous les autres moyens d'alerter, d'essayer de pousser à des actions ambitieuses face à l'urgence écologique n'ont pas réussi. Et ce qui est fou, c'est aussi de voir à quel point ça va vite. C'est-à-dire que moi, j'ai pas mal de gens qui m'écrivent en me disant j'ai commencé à participer à des désobéissances civiles, à la désobéissance civile, juste après avoir regardé tes vidéos. Et à l'époque et avant, je ne savais pas qu'il y avait une urgence écologique. Et en fait, on voit aujourd'hui qu'il y a aussi un moyen. Il y a tellement un panel de possibilités parce qu'en fait, faire de la désobéissance civile, ça peut recouvrir tellement de choses différentes. Et donc, il y a plein de gens qui passent ce cap beaucoup plus vite qu'avant, alors qu'il y a quelques années, potentiellement, on allait se mettre à faire du zéro déchet, quoi. Mmh. Donc, ça montre aussi que l'urgence est de plus en plus forte, que la tension est de plus en plus forte et que les rapports de force, en fait, sont aussi de plus en plus importants. Et c'est, d'une certaine manière, plutôt une bonne chose.
À quel moment on peut estimer que les mobilisations traditionnelles comme les grandes manifestations ont cessé d'avoir un impact sur les gouvernements, sur les politiques, Manuel ?
Ben, ça, c'est des choses qu'on observe sur le temps long, en réalité, hein, qui se jouent tout au long du XXe siècle. On voit, par exemple, la grève. C'était le grand mode de contestation dans la seconde moitié du XXe siècle. Et il y a des données qui sont compilées par le ministère du Travail depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui nous montrent, en fait, qu'en 60 ans, le nombre de journées de grève en France chaque année a été divisé par 10. On pourrait dire la même chose du taux de syndicalisation. Les manifestations, c'est pas le cas. Les manifestations, vous avez de plus en plus, bon, les chiffres.
La réforme des retraites, par exemple, il y avait des millions de personnes dans la rue.
Ouais. C'est intéressant parce qu'il y avait, il y a eu jusqu'à 3 millions de personnes dans la rue, par exemple, entre 2 et 3 millions lors de la réforme El Khomri. Donc là, c'était sur le droit du travail en 2016. Et ça n'a pas fait reculer le gouvernement avec 3 millions de personnes dans la rue. Alors qu'il y a une vingtaine d'années, en 95, 1 million de personnes dans la rue suffisait à mettre en échec le gouvernement qui était à l'époque celui d'Alain Juppé, qui avait lui-même dit à l'époque, si 1 million de personnes descendent dans la rue, mon gouvernement ne résistera pas. Ça avait créé chez les manifestants une sorte d'émulation. Il y avait eu un jupéton, il fallait atteindre le million. Et on voit aujourd'hui que les gouvernements sont, mais ça va avec le tournant autoritaire et sécuritaire aussi, et néolibéral de l'État, sont de plus en plus résistants face à la voix du peuple. Et donc, du coup...
Presque une conséquence, en fait, le développement de cette désobéissance.
Oui, tout à fait. C'est une conséquence d'un constat qui est aujourd'hui de plus en plus partagé, mais j'ai envie de dire par les sociologues comme par les activistes, à savoir que les formes de contestation traditionnelles, donc la manifestation, donc la grève, mais aussi le vote, en fait, tout simplement, regardez la hausse de l'abstention, elle est liée à ce sentiment que voter, ça ne suffit plus. Et d'ailleurs, je me permets de rebondir là-dessus parce que tout à l'heure, Paloma citait Henry David Thoreau, qui est effectivement considéré comme l'un des précurseurs de la désobéissance civile. Et il avait cette très belle phrase, Henry David Thoreau. Il disait, ce qui compte, c'est pas le bulletin que vous déposez dans l'urne une fois tous les 5 ans, mais le citoyen que vous mettez dans la rue chaque matin en se levant. Et donc, si vous voulez, à travers cette phrase, c'était cette idée vraiment que voter, c'est une forme de dépossession, en fait, de notre pouvoir d'agir. C'est une forme de délégation. On s'en remet à d'autres. Nos représentants, alors peut-être qu'ils feront ce qu'on leur a demandé, mais peut-être pas. Donc en fait, voter pour une cause juste ou pour une cause environnementale, dit Soro, c'est ne rien faire pour la justice et pour l'environnement. La seule chose qui peut faire évoluer la situation, c'est d'agir, c'est l'action directe, comme on le disait à l'époque dans le vocable anarchiste.
Ce que je trouve intéressant dans, par exemple, dans le livre d'une des stars de la désobéissance civile en ce moment, Andreas Malm, comment saboter un ou une pipeline, je ne sais plus si c'est masculin ou féminin, un pipeline, il explique que le but aussi de ces actions, c'est de montrer que les choses peuvent perturber le business as usual, comme il dit, de montrer que comment ça se passe au jour le jour, c'est pas obligé. On peut perturber l'économie, on peut montrer que le fonctionnement du monde n'est pas une obligation. Et moi, je trouve, alors pour le coup, là, pour vous parler de ma petite expérience de bloqueuse, et c'est quelque chose qu'on ressent très fort dans son corps quand on met le pied sur le périph et qu'on est là, OK, et qu'on voit qu'on arrive à quand même arrêter le flux de la circulation juste à une petite dizaine avec la force du groupe. C'est aussi une prise de conscience qu'on est à la fois très fragile et très puissant. On peut, si on est ensemble, faire bouger les choses. Et ça, j'ai trouvé que c'était une expérience particulièrement... revigorante. Moi, ça m'a redonné confiance en l'action politique. Est-ce que c'est pareil pour toi, Loïc?
Est-ce que ça m'a redonné confiance dans l'action politique? Je sais pas.
Il y a une euphorie du collectif, je trouve.
Absolument, absolument. Mmh. C'est impressionnant. D'ailleurs, on le voit quand on passe des actions collectives, tu vois. Moi, j'ai commencé par un blocage d'autoroute comme toi, et puis après, j'ai aussi fait le Tour de France cet été. Et ensuite, cette action presque individuelle où on a des actions médiatiques où les gens vont un peu seuls. Et ça, c'est encore autre chose.
Ouais, ça doit être encore plus dur.
Ouais, il se passe quand même j'apprends quelque chose. Mais on n'est jamais tout seul, parce que pour arriver tout seul sur un stade, pour arriver tout seul sur le terrain de Roland-Garros, comme l'a fait Alizé, hein, on a beaucoup entendu parler au printemps dernier, il y a 10, 20, 30 personnes derrière qui ont permis que ça soit possible. Donc le collectif, c'est d'une force incroyable. Et j'ai même, avant d'arriver chez les dernières innovations, participé au blocage de l'AG de Total à la salle Pleyel. Et il y a une masse, en fait. On était 250 et on se sent presque protégé par cette masse. La preuve en est que c'est très pragmatiquement parlant. On est tellement nombreux que la police a limite la flemme de tous nous contrôler à la sortie, donc nous laisse partir sans contrôle. Donc on a presque, j'irai pas jusque-là, mais une forme d'immunité par le nombre, parce qu'on est là, on montre qu'on est sérieux, qu'on est nombreux et motivés, et que attention, faut pas venir trop nous embêter, parce que sinon on va ramener encore plus de copains dans la rue. Et puis deuxième chose, c'est que s'ils nous emmènent dans des commissariats, et on le voit avec Dernière Rénovation, on sature très vite les capacités d'une ville même comme Paris. Donc ça, c'est assez impressionnant, tu as entièrement raison, on a un pouvoir démesuré par rapport à ce qu'on croit avoir entre nos mains.
Mais d'ailleurs le fondateur d'Extinction Rebellion disait que le but à l'origine, donc ça s'est monté en 2018, c'était d'inonder les prisons. Et juste pour citer à nouveau Thoreau, il dit « une minorité ne peut rien tant qu'elle se conforme à la majorité, mais elle est irrésistible lorsqu'elle fait obstruction de tout son poids ». Et il y a quelque chose de
très... Ouais. Attends, redis-le.
« Une minorité ne peut rien tant qu'elle se conforme à la majorité, mais elle est irrésistible lorsqu'elle fait obstruction de tout son poids ». Et en fait, c'est hyper puissant de voir ces actions de désobéissance civile. L'une des plus grandes qui a eu lieu en Europe, c'est celle de Ende Gelände, qui est un collectif de désobéissance civile en Allemagne, qui a occupé une mine de charbon. Et je vous invite vraiment, les personnes qui nous écoutent, à aller regarder les images. C'est incroyable. On voit que des gens avec des combinaisons un peu blanches en coton, un peu de chantier, quoi, qui envahissent cette mine de charbon. Et eux, leur argument, c'est de dire « nous sommes le risque d'investissement ». Et ils ont réussi à bloquer cette mine de charbon pendant 48 heures. Et ils étaient des centaines. Et il y a quelque chose de magnifique. Ouais, des milliers. Vraiment, on voit cette espèce d'énorme creux qui est complètement contre nature, en fait. Et ces personnes qui essaient de reprendre leurs droits et qui disent, voilà, nous sommes la nature qui se défend et qui sont au milieu de cette mine. Et c'est aussi hyper fort. Enfin, moi, j'ai vraiment pleuré en voyant ces images, de voir aussi la force de la répression et de voir ces personnes qui se tiennent les unes attachées aux autres. Parce que c'est aussi une des actions de désobéissance civile, c'est de s'attacher les uns aux autres pour ne pas pouvoir être évacués. Et quand on les voit être gazés à bout portant, c'est d'une violence inouïe. Mais on voit aussi que ça réussit, parce que de plus en plus, en fait, les industriels fossiles craignent ça. Et ça a été prouvé que, par exemple, les actions de désobéissance civile contre les industriels fossiles ont été celles qui ont le mieux fonctionné pour le moment.
Tout à l'heure, tu citais un des préceptes de Extinction Rebellion qui est « nous voulons saturer les commissariats ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le fait de passer en garde à vue ou le fait d'être arrêté fait partie quelque part de la stratégie ?
Oui, Manuel. Alors effectivement, bon, ça, c'est cette idée de saturer comme ça les prisons, c'était déjà présent chez Gandhi, chez Martin Luther King, il l'avait fait hein, pendant
même
le mouvement
José
des droits
Bové
civiques,
et
puis José Bové, c'est ça. Quand il y en a un qui se fait arrêter,
ils
en fait...
Ils arrivaient avec une liste et ils disaient, nous aussi, on veut être emprisonnés.
Et à un moment, c'est juste plus possible, et ça montre l'absurdité qu'il y a à réprimer, en fait, des individus. Donc, c'est une idée qui est assez ancienne. Chez quelque chose qui était très fort chez Martin Luther King, c'était de jouer comme ça stratégiquement avec la prison. En fait, il avait conscience de ce qu'il représentait pour le mouvement. C'était le leader, le tribun de ce mouvement. Il savait qu'en allant en prison, il avait conscience aussi de l'aura de sainteté presque qui entourait sa personne. Et ce qu'on observe de manière assez intéressante, c'est que c'est dans les moments de creux pour le mouvement des droits civiques que Martin Luther King fait systématiquement le choix de faire une action dont il est à peu près certain qu'elle va le conduire en prison et que ça va susciter un émoi national et même international autour de cette figure du martyr, de l'innocent qu'on condamne injustement. Donc il y a aussi le fait de savoir ruser avec ça, en fait, et de savoir jouer tactique, en fait. Parce que parfois, on entend, et ça, c'est quelque chose qui me déplaît un peu chez certains théoriciens, philosophes de la désobéissance civile, on entend que pour que votre action soit légitime, il faut que vous en assumiez les conséquences pénales et que donc vous alliez de votre plein gré en prison. C'est une idée qui est en total décalage avec ce que professait Gandhi, ce que professait Martin Luther King et ce que professait Thoreau, qui n'ont jamais dit « on a un devoir ». D'aller en prison. Il luttait contre des lois injustes, donc à partir du moment où on les met en prison, c'est tout aussi injuste. Il disait simplement, voilà, il y a un usage comme ça, parfois tactique ou stratégique, de la prison afin d'élargir le mouvement.
Loïc ?
Ouais, alors il faut quand même revenir un peu à la racine, parce que là on parle de technique marketing, de stratégie, de concept autour de ces mouvements, mais le cœur, ce qui fait que moi et beaucoup d'autres, on a fait ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a peur pour nos proches et pour notre avenir proche là qui arrive. Donc c'est même pas, on se pose même pas la question de la prison, des procès, etc. C'est des conséquences qui découlent. On est conscient quand on y va que c'est un risque, et on est conscient que c'est un risque quasi certain d'ailleurs, mais c'est pas du tout en tout cas mais vraiment hein, on cherche pas une technique marketing ici. C'est juste, et tous ici j'imagine qu'on va sûrement être d'accord, c'est que dans 10 ans on va avoir 1 milliard de personnes sur les routes, là, si on ne fait rien, avec un scénario à plus 3 degrés d'ici quelques années. 1 milliard de personnes qui vont devoir se déplacer parce que des zones vont devenir inhabitables sur Terre. Hein. C'est pour ça qu'on parle de 1 milliard. Et ça, c'est un domino. Ça va venir jusqu'à chez nous, en France et autres. Et moi, je suis convaincu, mais profondément, que dans 10 à 15 ans, il n'y aura plus assez à boire et à manger à Paris et dans plein de villes françaises. Et du coup, si on fait ça, c'est parce qu'il n'y a plus d'autre choix. Là, c'est vraiment la panique. Et qu'aller en prison, avoir un procès, ce que tu veux, mais c'est rien par rapport à nous battre avec, mais vraiment jusqu'à la mort, pour essayer d'avoir suffisamment à boire pour protéger ses enfants, ses petits cousins, etc., d'ici quelques années à peine. Donc avant que ce soit des manipulations marketing, même si je sais que c'est pas ce que tu voulais dire.
Non, mais il n'y a pas de honte à avoir des stratégies politiques pour faire avancer ses idées. Hein. Moi, je pense qu'on n'est pas obligé de qualifier ça de marketing.
Oui, mais ça découle. Il faut quand même être conscient que le facteur numéro un aujourd'hui, c'est, et on l'a dit, là, les gens s'éveillent. Hein. Paloma, tu le mentionnais, cet été, il y a eu plus de 11 000 morts du fait des températures. Il y a eu 2 200 morts tous les ans du fait de la vie dans des passoires thermiques. Donc, on n'est plus dans les formes. Là, on est vraiment au bout, au bord de la falaise, et c'est un acte presque désespéré que d'aller sur la route et d'aller faire une action médiatique aujourd'hui.
Jusqu'où tu serais prêt à aller, tu penses, Loïc, si, là, par exemple, les revendications de rénovation thermique n'étaient pas entendues? Est-ce que tu penses que le mouvement pourrait aller vers davantage de sabotage de biens matériels? Est-ce qu'il y a une possibilité d'escalade?
Alors, je ne vais pas parler pour Dernière Rénovation, qui est un mouvement non violent pour le moment, et la stratégie se construit avec les autres membres. Mais moi, personnellement, j'irai jusqu'au bout, parce que on est en train d'opposer nos formes d'action non violentes à une forme de violence étatique complètement banalisée aujourd'hui, où on a ces millions de morts qui s'annoncent même en France d'ici quelques années. Donc, c'est horrible. On ne peut pas faire plus violent que ça. Donc, nous, on est encore hyper raisonnable dans les formes d'action qu'on a aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de marge, effectivement, pour évoluer vers une forme d'action plus proportionnelle. Alors moi, je ne pense jamais m'en prendre aux personnes, mais par contre, pourquoi pas envisager tout ce qui est non-violemment nécessaire, mais ça inclut aussi des sabotages ou des choses comme ça, pour changer la donne et que le gouvernement agisse maintenant.
Alors, j'aimerais aborder une question peut-être qui est un peu délicate, sur la question de qu'est-ce qui rend légitime le fait de se dire « cette loi, je la trouve injuste ». Il y avait une députée Renaissance sur un plateau télé qui disait « qui décide de quelle action est juste pour avoir recours à la résistance civile? Qu'est-ce qu'on dirait si demain, des manifestants anti-IVG allaient bloquer le périph'?» Voilà, Maud Bréjon. Moi, je précise, dans mon âme et conscience, je ne suis pas d'accord avec elle. Dans mon cœur, je suis là « mais non, ça n'a rien à voir ». Mais faisons l'effort quand même de se pencher sur cette argumentation et d'essayer d'y répondre. Qu'est-ce qui différencie ces actions? Qu'est-ce qui est légitime de désobéir? Paloma Moritz.
Je pense que ce qui est légitime de désobéir, c'est de se dire qu'aujourd'hui, le combat qui est mené par toutes les personnes qui font des actions de désobéissance civile ou qui alertent face à l'urgence écologique, c'est un combat pour la vie. Ce qui est demandé, c'est d'essayer de faire en sorte que demain, on puisse s'alimenter tout court, et puis pourquoi pas mieux s'alimenter, qu'on puisse respirer un air pur, qu'on puisse en fait avoir une vie décente pour un maximum de personnes. Tu parlais au début justement de cette espèce de passe-droit qu'on peut avoir quand on est plus riche à plus polluer. Je pourrais citer l'exemple de Kim Kardashian, qui a dépassé son budget d'eau cet été en Californie de 180 000 litres avec Sylvester Stallone, en pleine sécheresse en Californie. En fait, ça, c'est plus possible. On ne peut pas avoir 1% de l'humanité qui s'éclate au détriment de tous les autres. Donc, en fait, ce qui est revendiqué dans ces actions-là, et de façon générale dans les questions écologiques, c'est vraiment un mieux-être pour le plus grand nombre. Donc à partir de là, moi je vois pas comment on peut ne pas être d'accord avec ça. Et je pense qu'il y a quelque chose à resituer, c'est sur justement cette question de la violence. On parle beaucoup de violence, on a parlé d'éco-terroristes en qualifiant ces militants, etc. C'est aussi un terme qu'a utilisé Maud Bréjon d'ailleurs sur ce plateau télé. Et en fait, où est la violence? Est-ce que la violence, c'est celle d'une entreprise comme Total qui va construire un méga projet pétrolier en Ouganda et en Tanzanie comme ICOP, qui indirectement va faire des milliers de morts parce que que ça va aggraver le réchauffement climatique, ou est-ce que la violence, c'est d'aller saboter le pipeline en question ou d'essayer de faire en sorte que ce pipeline ne soit pas construit. Et en fait, aujourd'hui, c'est important aussi de replacer les choses comme ça. C'est-à-dire que si des personnes sont plus choquées par un jet de soupe de tomate sur la vitre d'un tableau, je pense que c'est important de le préciser. Et c'est là où d'ailleurs les médias ont aussi un immense rôle à jouer que par le fait que le GIEC nous dit il nous reste une toute petite fenêtre d'opportunité pour regarder un avenir viral.
Je pense qu'on est tous absolument d'accord sur le degré d'urgence. Je suis absolument d'accord avec vous, on est tous d'accord là-dessus. Je pense que par contre, il est légitime de s'interroger sur pourquoi, Manuel, est-ce que dans l'histoire, ce sont des questions qui se sont posées sur qu'est-ce qui crée le déclencheur même, qu'est-ce qui crée cette légitimité à désobéir?
Si je reviens à la question que vous posiez juste avant, parce que c'est vrai que souvent, quand on commence à justifier des actions de désobéissance civile, qui sont des actions de gauche ou écolo, c'est la première objection qui vient, c'est et la droite, et l'extrême droite. Quand c'est des anti-IVG...
On se reconnaît pas du tout. Moi, je suis pas politisé, par exemple. Tu vois, je me reconnais pas à gauche comme militant. Oui. Tout ça, c'est des termes qui me sont étrangers. Tu vois, d'accord. Moi, je suis juste un citoyen qui est inquiet pour mon avenir. Oui. Il faut aussi dépolitiser ses actions. C'est pas le cas. Il y a beaucoup de citoyens qui viennent de partout et qui sont pas.
D'accord. Mais pour moi, la citoyenneté, c'est une qualité politique en fait que tu.
Oui, mais tu parles de gauche et de choses comme ça, de droite. Non, il y a vraiment.
D'accord. Mais c'est quelque chose de très noble à mes yeux, la politique. C'est pas ce que font les élus en fait. Les élus, ils font de la gestion en fait, de l'ordre établi. Ils font pas. De la politique, toi, ce que tu fais à travers tes actions, je pense que c'est politique. Voilà. Ce que fait Emmanuel Macron, c'est il gère l'état du monde, mais ça, c'est de la police, c'est de la domination, mais c'est pas de la politique, pour qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous.
Excuse-moi de l'interruption.
C'est un point qui est important parce qu'effectivement, c'est vrai que pour moi, dans cet activisme, il y a une forme, il y a une dimension politique, mais qui ne s'assume pas toujours comme telle, et ça transparaît un petit peu dans ton propos tout à l'heure quand on parlait de stratégie et que je disais oui, on peut jouer sur la prison. Il n'y avait rien de dégradant là-dedans à mes yeux et tu l'as pris, mais c'est un malentendu qu'on est en train de lever. Tu as parlé que c'était du marketing, mais en fait, il n'y a rien de mal en fait quand tu fais de la politique et à nouveau, c'est une chose noble à ruser un peu.
On oublie de rappeler la première chose qui a amené à Martin Luther King et autres dans la rue. Et avant tout, je pense, c'est humain, c'est de l'émotion, c'est de la peur pour son avenir avant d'être stratégique.
Mais c'est pour ça que les féministes disent que l'intime est politique, c'est pas juste qui fait la vaisselle, c'est politique, c'est que ce qui nous pousse à agir dans la société, dans le monde, dans l'espace public, c'est avant tout nos convictions, nos peurs, notre amour. Je pense qu'on est tous d'accord dans le fond. Mais j'aimerais quand même qu'on termine cette histoire de DVG.
Il y a un autre contre-exemple qui est souvent lancé. C'est ok, vous désobéissez, vous me dites cette loi elle est injuste, mais qu'est-ce que vous faites demain si vous avez un exilé fiscal, je sais pas quoi, Bernard Arnault par exemple, qui lui décide d'aller planquer son argent en Suisse ou ailleurs en disant bah oui, moi aussi je juge que ces impôts c'est injuste. Et bien la réponse à ça et qui explique qu'il y a une désobéissance civile qui est légitime, c'est celle dont on parle depuis le début de cette émission. Il y en a une autre qui ne l'est pas, c'est celle de Bernard Arnault. Voilà. C'est que dans un cas, vous œuvrez pour le bien commun, pour une chose aussi simple que la justice, et dans l'autre, vous œuvrez pour vos intérêts particuliers. Et je crois que tout le monde sera d'accord que l'évasion fiscale, c'est de l'intérêt particulier. Et préserver les possibilités d'habitabilité de la Terre et de la vie sur Terre, c'est quelque chose qui relève du bien commun. Et donc c'est pour ça, il y a illégalité et illégalité.
Oui, la survie de tous, ce n'est pas une idéologie, selon moi. On peut objecter qu'après, si on veut se battre pour des convictions ou des personnalités politiques, là, c'est autre chose, quoi.
Et on peut dire la même chose des suffragettes. Obtenir des droits de vote pour les femmes, c'est quand même justement faire en sorte que toutes les femmes puissent exercer leur citoyenneté de façon pleine et entière.
Oui.
Ça n'a pas de...
Aujourd'hui, ça paraît peu de choses, les dégradations qui ont été occasionnées par les suffragettes, qui d'ailleurs, elle avait... C'était laquelle qui avait lacéré la Vénus.
C'est Marie Richardson.
Voilà, Marie Richardson. Et aujourd'hui, ça paraît bien peu de choses. C'est ces dégâts pour la noblesse de la cause. Donc... C'est fou. Et je pense que c'est exactement ce qu'on se dira, si on peut se le dire.
Aujourd'hui, ça paraît complètement évident que, en tout cas, dans nos sociétés occidentales, je pense qu'il faut le rappeler quand même, que les femmes aient le droit de vote. Et il y a quand même une différence entre Marie Richardson, qui en 1914, à 25 ans, va lacérer de 7 coups de hache la Vénus au miroir de Milo, et le fait qu'à quelques mètres de là, des années plus tard, il y a eu un jet de soupe de tomate.
Oui, sur
une vitre.
Oui, on est d'accord.
Et d'ailleurs, c'est assez fascinant parce que quand on va voir le tableau, il est complètement restauré et on ne voit presque rien. Il y a vraiment juste des mini
traces.
La Vénus,
où
on voit,
il est encore plus beau, moi, je trouve. Il est encore plus beau. On se souvient d'un membre de Extinction Rebellion qui avait tweeté en 2019. Enfin, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en tout cas, je vous l'apprends peut-être. Nous sommes ingénieurs, nous sommes avocats, nous sommes médecins, nous sommes tout le monde. Il est souvent reproché au mouvement de désobéissance civile d'être un peu blanc et bourgeois. Pourquoi, Paloma ?
La question, c'est pourquoi ça leur est reproché et est-ce que c'est réel ? Moi, je n'ai pas connaissance, en tout cas, aujourd'hui, de travaux qui ont été menés sur la sociologie de ces, de ces mouvements de désobéissance civile et la proportion de blancs, non-blancs. C'est vrai qu'il y a quand même essentiellement des blancs. Ça, on peut le voir, en fait, quand on voit les images. Mais sur la sociologie, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé de participer à des formations de désobéissance civile et aussi d'aller à des actions, notamment d'Extinction Rebellion. Et en fait, c'était fascinant de voir qu'il y avait, par exemple, des anciens banquiers, des personnes qui ont 60 ans, 70 ans, qui sont retraités. Enfin, il y a une sociologie qui est quand même très, très différente. Après, c'est une sociologie qui est quand même plutôt, soit CSP+, soit ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelait au moment de Nuit Debout, les intellos précaires, quoi. Donc, c'est des gens qui sont, qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui sont plutôt diplômés. Et donc, du coup, qui ont eu accès aussi à ce savoir. Et je pense que, en fait, l'une des raisons pour lesquelles, justement, pour le moment, les personnes qui s'investissent dans ces actions-là ne sont pas représentatives de la population, c'est de un, parce qu'on n'a pas le même degré de connaissance et en fait, de niveau d'alerte sur l'urgence en fonction aussi de notre milieu social et de là où on grandit, parce qu'on n'a pas les mêmes accès aux informations, mais aussi on n'a pas forcément le même temps. Je veux dire, quand on fait des études ou quand on a un petit peu d'argent de côté ou autre, bah, on a beaucoup plus de temps pour aller mener des actions de désobéissance civile que quand on travaille H24 et que on a à peine le temps d'aller faire les courses.
Il faut aussi pas avoir peur de la police. Du coup, si on a été contrôlé par les policiers toute son adolescence, qu'on a été victime du racisme de certains policiers, on n'aura pas envie d'aller faire une garde à vue. Enfin, il y a aussi ça quand même. Il faut avoir un certain privilège pour pouvoir mener ces actions.
Oui, tout à fait. Manuel. Mais je crois que Paloma a dit l'essentiel. Enfin, voilà, ouais. le portrait sociologique. Bon, on a des enquêtes qui sont assez localisées, collectif par collectif. Bon, voilà, et quand on compile tout ça, oui, on voit se dessiner un profil que vous venez de dresser. Bourgeoisie, c'est oui, il y a des. En fait, il y a beaucoup de choses. Il y a tout, il y a beaucoup de choses. Mais c'est vrai que la blanchité de ce mouvement est quelque chose, pour le coup, ça qu'on retrouve. Et que oui, bah oui, c'est une forme de privilège, ça préserve. Enfin, moi, pendant ma thèse, j'ai passé 2 ans avec un collectif qui menait une action par semaine. À chaque fois, il y avait une dizaine de personnes, une quinzaine, une vingtaine. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu un seul procès. Alors, il y a eu quelques gardes à vue, pas 40 heures, c'était quand même un peu moins, mais il n'y a pas eu un seul procès sur plus de 70 actions en 2 ans. Quoi. C'était assez étonnant. On a du mal à imaginer qu'un jeune racisé puisse échapper aussi facilement que ça à des peines. Mais alors, c'est là qu'il faut peut-être aussi resituer ce qui se passe aujourd'hui en France dans une histoire plus longue de la désobéissance civile, parce que on n'est pas, enfin, quand on pense à l'Inde sous colonisation britannique, ou quand on pense aux Américains dans un pays ségrégué, là, pour le coup, les personnes qui mettaient en place ces actions de désobéissance civile, elles faisaient partie des échelons inférieurs, prolétaires, racisés de la société. Mais la grande différence avec ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est qu'à l'époque, là, aux États-Unis et en Inde, on avait vraiment affaire à une désobéissance civile de masse. C'est-à-dire que c'était des actions de désobéissance civile qui s'accompagnaient de journées de... Parce que c'est pas la désobéissance civile toute seule, ça s'accompagne en général de manifestations, ça s'accompagne de journées de grève générale. On parle de campagnes sur plusieurs années qui mobiliser des dizaines, voire des centaines en fait, de milliers de personnes. Et donc là, peut-être que ce cap est un cap qui, on l'espère, je l'espère en tout cas, sera franchi un jour en France, oui, et dans nos pays. Il n'a pas encore été réellement franchi.
Est-ce que tu crois que c'est possible d'envisager qu'un jour vont se rejoindre le mouvement, la génération climat, comme on l'appelle, faute de mieux, même si c'est assez réducteur, et le mouvement des gilets jaunes, on va dire, qu'il y ait une convergence des luttes? Ça, je pense que là, l'Élysée, il serait en PLS, quoi.
Oui, probablement. Oui, effectivement. Mais en tout cas, c'est ce à quoi aspire un certain nombre de personnes. Il y a aujourd'hui des liens embryonnaires aussi qui se font. Je pense qu'il faut regarder aussi au niveau des intérêts objectifs des uns et des autres. Oui, les classes populaires moyennes inférieures qui ont été, rurales ou périurbaines, qui ont été le cœur, on va dire, des gilets jaunes, en tout cas au début, sont victimes, bien sûr, d'injustice sociale, mais d'injustice écologique et environnementale. Et elles en payent le prix fort.
Et en plus, c'est à eux
polluent le moins.
C'est à elles qu'on veut les faire payer la taxe carbone.
Donc elles ont
polluer,
un intérêt matériel.
Enfin bref,
elles
bien
ont
sûr.
Un intérêt matériel objectif en fait à se rallier à ça. Et oui, bien sûr, même dans le mouvement climat, un peu privilégié par certains égards, vous avez quand même des enfants de la bourgeoisie qui subissent aujourd'hui la cure d'austérité, la précarisation de tout un tas de services publics, et donc eux aussi en fait qui ont une condition de vie matérielle qui se rapproche, une prolétarisation en fait tout simplement de la classe moyenne, qui fait que les ingrédients me semblent réunis pour pousser à terme, mais à savoir si ça adviendra vraiment, c'est toute la question, vers une convergence.
Je suis désolée, je suis contrainte de vous interrompre pour quelques petites secondes, on se retrouve tout de suite. Merci d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire. Nous sommes en train de nous demander si nous devons jeter de la soupe sur les tableaux ou sur les vitres des tableaux avec Paloma, Moritz de Blast, Loïc de Dernière Rénovation et Manuel Servassa-Marzal qui est sociologue. J'aimerais qu'on aborde maintenant le lien entre climat et capitalisme. Alors, je sais que ça fait le sujet de thèse dit comme ça, mais la petite histoire que j'ai racontée en introduction sur Seyant, est-ce que tu disais tout à l'heure, Paloma, sur Kim Kardashian qui utilise des centaines et des milliers de litres d'eau en pleine sécheresse, ça nous montre à quel point il y a un lien quand même entre les riches de ce monde, le 1%, et, l'urgence climatique. Est-ce qu'on va pouvoir sauver la planète sans renverser le capitalisme? Je sais que c'est une vaste question qui vous a... S'il y a quelqu'un qui veut se lancer, ouais, vas-y Loïc.
C'est un peu le sujet. Ouais. Moi, je suis à nouveau primo-militant depuis quelques mois. Je n'avais pas fait de marche pour le climat jusqu'en mars de cette année. Donc, j'ai découvert tout ça et j'étais très naïf. Et en faisant ces actions Dernière Rénovation et en passant, on est passé sur beaucoup de plateaux et dans des émissions de radio... ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses et là récemment j'ai lu des trucs et je me rends compte à peine maintenant qu'en fait c'est pas du tout l'intention d'un Emmanuel Macron, d'une Elisabeth Borne et d'un élu quel qu'il soit de faire des efforts pour le bien commun. Moi je vois la chose de manière très simple, c'est aujourd'hui le gouvernement est là pour défendre les intérêts privés des grands groupes, des milliardaires, donc ça paraît cliché mais c'est le cas, c'est-à-dire que quand on est élu président de la République on a un entretien dans la résidence privée, l'hôtel particulier d'un tel, un tel, pour vérifier qu'il va bien remplir sa feuille de poste pendant son mandat. Donc ce sont des intérimaires, ces gens-là. Et aujourd'hui, donc, comment est-ce qu'on fait pour défendre l'intérêt privé? On met le plus d'obstacles possibles entre nous, qui sommes la caste, l'oligarchie dominante, et monsieur tout le monde qui souffre.
Manuel, dans un télé, tu expliques que lors des précédents effondrements de civilisations, que ce soit l'Empire romain, les Mayas, l'île de Pâques, etc., les individus les plus aisés mettent toujours 2 à 3 générations avant d'être touchés par ce qui touche déjà le reste du monde. Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer avec le 1%?
Oui, effectivement. Alors bon, là, je prends la parole moi en tant que sociologue qu'en tant que citoyen engagé avec mes convictions politiques. Moi, je suis assez convaincu, pour répondre cash à ta question, on ne sauvera pas le climat sans renverser le capitalisme. Il y a effectivement, c'est ça la donnée qui le résume le plus, c'est que les plus riches, les 1%, si on les appelle comme ça, mais parlons des capitalistes, puisque c'est eux en fait qui possèdent l'essentiel des moyens de production dans nos sociétés contemporaines, c'est eux qui polluent le plus, mais c'est eux en fait qui en souffrent le moins et leurs enfants, leurs arrière-petits-enfants seront même protégés quand l'immense majorité de la planète sera sous l'eau. Donc voilà, ça c'est un point qui est important. Il y a aujourd'hui un slogan qu'on voit parfois qui dit que l'écologie sans la lutte des classes c'est du jardinage, et on trouve la même déclinaison avec le féminisme sans la lutte des classes c'est du développement personnel. J'aime à moitié ces slogans, parce que c'est une vision assez... Bon, sur le développement personnel, ça me gêne pas, mais sur le jardinage, c'est une vision assez négative du jardinage, je pense que bon, voilà. Mais en même temps, ça dit quelque chose de juste. Ça pointe le fait que le défi qui se présente devant nous, il faut le rapporter à des causes qui sont
structurelles.
Et pareil, je fais un petit écart, mais sur la question du féminisme, tout à l'heure tu parlais de privilège. Oui, cette notion de privilège que parfois on accuse d'être moralisatrice, en fait elle n'est pas du tout moralisatrice. Il n'y a pas plus structurel que la notion de privilège blanc, de privilège masculin, qui nous dit en fait qu'on peut bénéficier du patriarcat, on peut bénéficier de l'ordre racial, quand bien même on aurait des idées qui seraient des idées tout à fait antiracistes, tout à fait féministes, tout à fait progressistes. Et je pense que sur l'écologie, pour sortir d'une écologie trop institutionnelle, trop réformiste, trop morale, si on peut utiliser ce terme-là. Il faut aller vers une analyse du capitalisme en tant que structure économique et aussi une analyse stratégique qui pense en termes de lutte des classes.
Ce qui est très intéressant, c'est que c'est justement ce que propose l'écoféminisme, qui propose justement une société qui ne serait pas basée sur la prédation des ressources naturelles ou la prédation des personnes minorisées. Est-ce que c'est par ça qu'il faut remplacer le capitalisme, Paloma Moritz, si on y arrive?
Oui, complètement. Ouais. En fait, le capitalisme néolibéral est basé sur l'idée que plus, c'est toujours mieux. Et à l'origine de la catastrophe en cours, puisqu'il est vraiment basé sur la combustion des énergies fossiles et qu'aujourd'hui, les entreprises au monde qui se font le plus d'argent sont des entreprises fossiles. Donc en fait, d'une certaine manière, elles n'ont aujourd'hui aucun intérêt à arrêter puisqu'elles font du profit. Et on voit aujourd'hui les profits records qu'il y a eu du fait de la guerre en Ukraine, de plusieurs multinationales fossiles européennes, dont Total, etc. Et en fait, à partir de ce moment-là, ces personnes-là n'auront pas envie d'arrêter. Et le problème, c'est que le système dans lequel on est, nous réduit en tant qu'individus, c'est-à-dire qu'on est réduit à des producteurs-consommateurs, ce qui entrave énormément de personnes et crée énormément de malheurs, mais en plus détruit le vivant absolument partout au nom du profit. Donc on va aller détruire des forêts, on va aller tout prendre, on va aller tout récupérer. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, tout ça vient de cette idée qu'on a mis la culture au-dessus de la nature, qu'on a fait cette espèce de distinction entre nature et culture et qu'on a mis du côté de la nature tout ce qu'on pouvait aller prendre en disant il y a une hiérarchie en fait. Il y a d'un côté les tenants de la culture, du progrès et puis il y a les autres, la nature. Et en fait, on lie beaucoup les femmes à cette nature-là, mais de façon générale, en fait, cette façon de penser le monde crée toutes les destructions en cours. Et donc évidemment que ça, il faut le remettre en question parce qu'on ne va pas pouvoir s'en sortir avec ce système de pensée-là. Et ça nécessite aussi d'apprendre autrement l'histoire, par exemple à l'école, de s'informer différemment et d'arrêter en fait avec cette fameuse idée qui nous bloque complètement de « il n'y a pas d'alternative ». Le capitalisme, en gros, néolibéral, c'est une voiture, un train, ce qu'on veut, qui fonce vers une falaise, vers un mur. Voilà, on peut prendre la métaphore qu'on veut. L'idée, c'est pas de freiner le train, c'est pas de l'arrêter, c'est en fait de sauter dans un autre train. Et je pense que c'est vraiment hyper important de le préciser parce que sinon on a toujours cette espèce d'image que il y a une phrase assez folle d'un théoricien politique qui dit il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. C'est Frédéric Jameson qui dit ça. Et c'est tout le problème dans lequel on est aujourd'hui. Et je pense qu'il y a aussi une question d'imaginaire. On n'arrive pas à imaginer le monde autrement que tel qu'on le connaît aujourd'hui en fait.
Parmi les têtes pensantes du Climate Emergency Fund, qui finance une grande partie des actions du réseau A22 dont on parlait, on trouve la psychologue Margaret Klein, on va le dire à la française, qui explique publiquement dans un grand texte qui est extrêmement intéressant qu'on peut lire sur Medium, sur pourquoi est-ce qu'elle participe à ce fonds, qu'est-ce qu'elle espère faire, etc. Elle explique vouloir viser à créer une mobilisation mondiale d'ampleur comparable à la Seconde Guerre mondiale. C'est donc elle qui fait ce lien. Je pense qu'on s'est tous dit, quand on était en cours d'histoire au collège ou au lycée, on s'est tous demandé qu'est-ce que j'aurais fait, moi, si j'avais été confrontée à l'occupation, au nazisme, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans un moment similaire ? Est-ce qu'on est dans un moment similaire aujourd'hui ? Loïc ?
Moi, excuse-moi, depuis quelques dizaines de minutes, là, ça monte. Chaque fois que je viens sur un plateau ou un podcast ou autre, je trouve qu'on est beaucoup trop, mais... On est beaucoup trop calme, on est beaucoup trop doux, on est beaucoup trop dans la conceptualisation et on n'est pas énervé. Et moi, je suis, mais vraiment, ça m'enrage parce que c'est tellement concret, c'est tellement simple, les solutions aujourd'hui. À nouveau, on va vers un scénario qui est catastrophique, je reviens pas dessus. Les gens, là, on est tous chez nous en train d'écouter un podcast alors qu'on sait pertinemment qu'on a un gouvernement qui est contre nous, contre le bien commun. On va tous... à l'abattoir. Moi, j'ai une petite sœur, j'ai une maman, j'ai plein de petits cousins, cousines qui vont avoir aucun choix dans leur vie. Et là, on est en train de foncer droit dans le mur. Donc moi, j'ai juste envie qu'on soit en colère, qu'on s'engage, qu'on vienne à des réunions publiques de mouvement, que ce soit dernière rénovation ou autre chose.
Je pense que tu te trompes en nous... parce que je crois que ce qu'on est tous en train de faire, c'est qu'on est en train de parler de renverser le capitalisme. Moi, j'ai commencé par mon introduction en disant que j'avais participé à des actions. Je pense que tu te trompes d'ennemi, là, Loïc.
Je te cible pas.
Je pense que... je pense très sincèrement que tu te trompes d'ennemi. On est très en colère, tous.
Ouais, mais moi... Et
je pense que nous tous autour de cette table,
je me sens pas avancé.
Paloma, c'est celle qui a fait le plus avancer ses des idées sur Internet. Sa vidéo sur la désobéissance civile, elle a convaincu je sais pas combien de personnes.
Les gens, c'est...
Bah, non, mais c'est très sincèrement...
En fait, aujourd'hui, c'est gravissime, tu vois, et on sait quoi faire, donc juste plan pragmatique pour en finir. On a un État qui est contre nous, on a quel moyen on a entre nos mains pour agir aujourd'hui ? C'est la résistance civile. Allons tous dans la rue, allons tous bloquer les routes, allons tous essayer de faire quelque chose. Et aujourd'hui, c'est pas en discutant, malheureusement, c'est triste d'en venir là, hein, mais avec un gouvernement qui protège l'intérêt privé, qu'on va réussir à faire quelque chose. Donc,
si je peux me permettre, là, je pense que la question, c'est pas de dire de discuter avec un gouvernement ou pas, c'est vraiment de se positionner en tant que personne en se disant, voilà, on est dans une urgence inédite, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais partie ? Et de s'interroger et de se demander, est-ce que en fait, je contribue au problème ou est-ce que j'essaie de contribuer aux réponses à ce problème-là ? Et en fait, le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens, mais pour des raisons multiples et en fait, que je juge pas parce qu'ils ont peur ou autre, etc., qui aujourd'hui sont dans des situations de dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'ils vont travailler dans des grands groupes où ils polluent énormément et à côté de ça, ils arrêtent de manger de la viande et puis ils font du zéro déchet et puis peut-être qu'ils réduisent leur transport, leur voyage en avion ou qu'ils ne prennent plus l'avion du tout. La nécessité aujourd'hui, justement, c'est d'essayer de décaler un peu cette ligne-là de l'acceptable, je pense. Et qu'en fait, la résistance, la désobéissance, ça passe par mille choses. Ça passe en premier lieu par se dire je ne participe pas à un système qui oppresse le vivant sous toutes ses formes, les humains comme les non-humains, et j'essaie de le faire de toutes les manières possibles et différentes. Et il y en a qui vont le faire en informant, il y en a qui vont le faire en bloquant des routes, il y en a qui vont le faire en essayant justement de négocier avec le gouvernement. Et d'une certaine manière, tous ces rôles sont utiles. La désobéissance civile, ça a toujours été un ingrédient des grandes transformations de l'histoire, mais ça a été un ingrédient. Et il faut plein d'autres choses à côté. Et il faut que chacun, justement, puisse utiliser ses talents de la meilleure manière possible pour le faire. Et en fait, tout le monde ne va pas bloquer les routes. Je pense qu'il faut être complètement réaliste là-dessus. Et c'est hyper important qu'il y ait des gens qui le fassent. Parce qu'en fait, plus il y a de personnes qui vont mener ces actions de désobéissance civile, plus les personnes aussi qui vont justement être dans ces stratégies de plaidoyer ou autres vont être entendues. Et plus aussi, ça va donner de la force à d'autres. Et donc, on ne peut pas en fait opposer les choses et être dans quelque chose de binaire parce que je pense que ce serait contre-productif. Et je comprends ta colère. Je l'ai aussi. Et j'ai aussi de l'angoisse. Et j'ai aussi tout ça. Mais en fait, il y a des moments, je pense qu'on ne peut pas demander à certaines personnes d'aller plus vite que ce qu'elles font parce qu'il y en a aussi qui ne sont pas conscientes de la gravité de la situation dans laquelle on est. Et c'est tout le problème.
Ouais, je dois dire que je suis plutôt d'accord avec ce que vient de dire Paloma, que plutôt que de créer des oppositions qui me semblent peut-être un peu artificielles parfois entre ceux qui agissent collectivement et ceux qui agissent individuellement, ceux qui le font dans le cadre de la loi et ceux qui le font de manière extra-légale, ceux qui parlent du problème et ceux qui agissent pour le résoudre. En fait, il faut plutôt faire attention au continuum en fait qu'il y a entre à chaque fois les deux pôles, parce que en fait, il y a des gens qui parlent un jour et qui le lendemain vont tout simplement agir. Il y a des gens qui un jour vont voter, alors on va leur dire t'es un vendu, tu te contentes de voter, c'est voilà, ça sert à rien, etc. Mais en fait, le lendemain, ils vont faire une action de désobéissance civile, puis après, ils décident de boycotter les élections, puis un jour, ils reviennent aux élections, puis après, ils vont faire une action de sabotage. Et en fait, tout ça, ça circule de manière assez fluide. Et la seule vraie opposition qui existe, c'est celle de ceux qui essayent de préserver ce système capitaliste, hétéropatriarcal et racial, et puis celles et ceux qui ont compris, parfois de manière encore tâtonnante, encore partielle, mais c'est un cheminement en fait. Personne, aucun d'entre nous ici n'est né en se disant tiens, ben moi en fait je suis anti-raciste, anti-patriarcat, anti-etc. Enfin, c'est des acquisitions qui se font progressivement et ça c'est un savoir-faire aussi militant, c'est-à-dire il faut pas... Ben, parfois ça peut avoir des vertus de brusquer un peu les gens et de les mettre face à leurs contradictions, mais il faut savoir faire ça et en même temps il faut savoir accompagner en fait dans le cheminement et faire preuve d'une certaine bienveillance. Enfin, militant, c'est pas quelque chose d'évident.
La question, c'est celle de la durée. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Et enfin, je donne mon exemple parce que en fait, enfin, typiquement, moi, ça fait plus de 15 ans en fait que je suis consciente de ces enjeux-là et j'ai oscillé entre plein de sentiments différents, entre des moments de radicalité plus forte, des moments plus faibles. Parce que, en fait, si on veut durer sur le temps, on peut pas être tout le temps à un niveau maximal de tension ou d'action, parce qu'en fait, on ne tient pas. Enfin, le burn-out militant, ça existe. Le burn-out tout court, ça existe aussi. En tant que journaliste, j'en vois beaucoup autour de moi. Donc, il y a aussi cette nécessité de trouver un juste équilibre, tout en restant en permanence indigné et intranquille. Hein. Je pense que c'est très très important de ne jamais se résigner. Et moi, l'une des choses sur lesquelles j'essaie de me battre avec Blast, c'est aussi de lutter contre l'apathie dans notre société et l'indifférence.
Comment convaincre, j'allais justement venir à cette question, autour de soi, quand on est face au déni climatique ou à la... je sais pas, quand les gens essaient de relativiser ou toujours de dire « mais c'est pas de ma faute, c'est la faute de la Chine, c'est la faute de nanani ». Enfin, toutes les choses qu'on se dit pour regarder ailleurs. Comment est-ce qu'on peut essayer d'éveiller les consciences autour de soi, à ton avis, Manuel ?
Parfois, ça passe par des actes, effectivement, plutôt que par des paroles, par des chiffres, par des arguments. Ça peut fonctionner, hein. On a tous une raison universelle et on peut être sensible à des chiffres et des arguments. Mais parfois, en fait, d'avoir quelqu'un qui nous est proche et qu'on voit, et on ne s'y attendait pas forcément, ben, s'engager, se mettre en danger, passer à l'action, ça peut créer comme ça, c'est pas instantané, mais ça crée des petits déclics. « Ah tiens, lui, il fait ça ?» Ça élargit en fait le champ des possibles, ça élargit, tout à l'heure on parlait de notre imaginaire, voilà, ce monde-ci n'est pas le seul monde possible, il y a des alternatives, ça vaut au niveau bien sûr de l'ordre économique et politique, mais ça vaut aussi à travers des petits décalages dans nos modes de vie, et qui peuvent à nouveau, un décalage tout simple, aussi simple qu'une pratique vestimentaire, une pratique alimentaire, ça peut ensuite conduire à des formes de résonance plus collective, plus politique, donc bon, en fait, comment est-ce qu'on convainc? En fait, il y a mille façons de convaincre. Il faut les essayer les unes les autres. Ça dépend aussi du contexte et puis des personnes, tout simplement, qu'on a en face de soi.
Je pense que l'un des meilleurs arguments, c'est de dire aujourd'hui que la plupart des patrons de la Silicon Valley se sont achetés des bunkers de luxe un peu partout au monde et notamment en Nouvelle-Zélande pour échapper à la catastrophe écologique. Et quand on se dit qu'en fait, les personnes qui participent à ce système, qui ont créé ce système, sont aujourd'hui en train d'essayer de créer leur porte de sortie, ça pose quand même vraiment question. Et je pense que justement, même des personnes qui sont qui ne veulent pas croire à l'urgence dans laquelle on est, si on leur dit ça, elles vont aussi la réaliser. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a pas longtemps, je voyais un documentaire sur France 5 qui s'appelle La bataille du climat, et il y avait un lobbyiste qui finalement avait décidé de changer de bord au moment où on lui avait dit, mais tu sais, en fait, si t'es capitaliste, tu as tout intérêt à croire à l'urgence écologique et à agir, parce qu'en fait, tu vas perdre beaucoup d'argent. Donc, d'une certaine manière, bon, là je donne des exemples un peu en se marrant, mais parfois, on peut aussi être confronté à des personnes comme ça, qui croient à un système dur comme fer et qui se disent, non, mais attends, tout va bien. Et donc, en fait, il y a plein d'arguments en fonction des personnes avec qui on est. Après, c'est pas que des arguments. Je pense que c'est aussi d'incarner quelque chose. Moi, quand j'en parle autour de moi, il y a plein de gens qui me disent « jamais autant convaincu depuis que j'ai arrêté d'essayer de convaincre ». Et donc, voilà. Donc, ça passe aussi, je pense, par le fait de montrer qu'en fait, on peut avoir un mode de vie sobre, être engagé, être intransigeant sur énormément de choses et être heureux. En fait. Et moi, les personnes que je connais qui sont les plus engagées sont des personnes heureuses. Et tous ces moments de marche, de formation à la désobéissance civile, d'action, sont des moments en fait, où on vit des choses hyper fortes ensemble et on se lie les uns aux autres. Et on sait en fait, que face au choc à venir, la chose la plus importante, ce sera les liens sociaux. En fait. Et si on n'a pas les liens sociaux les plus forts possibles, on ne résistera pas au choc à venir. C'est ça le plus important.
Une belle formule pour terminer notre conversation. Loïc, si on veut vous rejoindre, comment fait-on Dernière Rénovation ou un autre mouvement d'ailleurs pour en citer d'autres, Extinction Rébellion ou comment faire?
Venez, c'est très simple justement, tout à fait, venez vous renseigner, ça n'engage à rien. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément dans l'action arrêtable et autres, il y a beaucoup de formes d'engagement au sein d'un mouvement comme Dernière Rénovation. Ça fait des mois justement qu'on sensibilise les gens et que les réunions débordent, donc c'est bien, là, ça parle. Et venez à une réunion publique, il y en a en centre-ville de Paris, il y en a dans plusieurs villes de France et vous pouvez à la fois être un support quelques heures par semaine ou bien vous engager à temps plein. Il y a des gens, malheureusement, mais sans aller jusque-là, qui ont quitté leurs études, qui ont quitté leur travail pour sauver leur avenir. Puisque ça se joue maintenant, sous 2 à 3 ans, comme vous le savez. Ouais.
C'est l'heure de nous quitter. Un grand merci à nos invités. Merci à notre chargée de production, Charlotte Beck. Et merci à nos réalisatrices, Quentin Bresson et Elisa Grenet. À très bientôt, mes chers amis.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.